Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Avec Karine Leloët. Aux États-Unis, on ne peut pas entretenir impunément une relation avec son voisin de bureau. Depuis quelques années, de nombreuses firmes ont mis en place des love contracts, littéralement des contrats d'amour. Ils obligent deux employés entretenant une relation à la signaler à leur entreprise. Ils doivent aussi s'engager à ne pas montrer leur affection dans l'open space ou à la machine à café, voire à changer de service pour éviter tout favoritisme ou prise de bec. Tout est prévu, jusqu'à la fin de la relation. Le dit contrat d'amour peut en effet obliger les employés à prévenir leur entreprise en cas de rupture. Imaginé par des grands cabinets d'avocats dans le sillon de l'affaire Bill Clinton-Monica Lewinsky, il s'agit de limiter la responsabilité des entreprises dans le cas où une relation se terminerait par un conflit juridique entre les deux ex-amants. Tant pis ou tant mieux, vous en jugerez, en France en tout cas, c'est interdit. La loi protège fermement le droit à la vie privée. Alors les relations se nouent et se dénouent, souvent en secret. En voici deux exemples, racontés au micro de Clément Saccard.
Je m'appelle Lily, j'ai 25 ans. Depuis mes 18 ans, je suis militaire. Lors de mon engagement, j'avais envie d'aller sur les conflits. Je voulais moi aussi connaître l'Afghanistan qu'avaient connu les soldats à la télé. Mais j'avais vraiment cette envie de grimper les échelons. Déjà, je voulais pas rentrer tout en bas de l'échelle. Je voulais rentrer déjà sous-officier, car je voulais m'assurer une chance de pouvoir devenir officier et d'évoluer rapidement et de vivre cette carrière à 100%. On me l'a clairement dit, lorsque je me suis engagée, on m'a dit, voilà, toi tu es une femme, donc il va falloir toujours que tu sois à 100%, parce qu'un homme, quand on lui dit c'est bien, mais toi ça doit être très bien pour qu'on te dise que c'est bien. Et comme j'ai un esprit assez compétitif, je me suis mis dedans et la carrière était lancée. On est au mois de juin et donc on me convoque pour m'informer que je vais encadrer une formation de nouvelles recrues durant l'été. Je l'accepte immédiatement et c'est parti pour deux mois de formation. Je suis vraiment focus sur les objectifs de les former du mieux possible, de les amener à devenir soldats et non plus jeunes recrues. L'encadrement fait partie des tâches du métier de sous-officier. La formation prend fin, donc on retourne tous dans notre unité. Et je reçois un message donc d'une nouvelle recrue qui vient juste de finir sa formation. Il me redemande les ordres que j'ai énoncés le soir même, donc je m'énerve un petit peu par message en lui disant qu'il n'a pas écouté mes ordres. Et là, il m'envoie que c'est dur, sergent, d'écouter mes ordres, donc je ne comprends pas tellement où il veut en venir. Et en fait, il m'explique que c'est compliqué de ne pas pouvoir me parler ou m'envoyer des messages parce qu'il en a très envie et qu'il me trouve donc mignonne. À ce moment-là, je lui envoie un message un peu moins cordial en lui expliquant que je ne suis pas intéressée, que je ne mélange pas le professionnel et le personnel et que je n'aime pas sa façon de me regarder et que je lui interdis de me dire que je suis mignonne, qu'il a qu'à aller s'amuser avec des personnes de son grade et profiter et ne pas attirer mon attention. J'ai jamais envisagé le fait qu'il pouvait me plaire, j'ai jamais envisagé le fait qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit avec lui. Je le vois comme un subordonné comme les autres et je suis pas du tout attirée par lui à ce moment-là. Au contraire, je trouve ça plutôt frustrant de le voir constamment m'envoyer des messages ou essayer de me parler parce que pour moi c'est le néant, c'est pas du tout réciproque à ce moment-là. De plus, il avait une fonction subordonnée à moi. En tant que jeune recrue, nouveau arrivé, c'était impossible, impossible. Je faisais trop attention depuis des années à ma rigueur, à mon professionnalisme, à toujours être en avant du fait que je sois une femme, que ça ne m'était mais vraiment impossible de m'imaginer une seconde que j'allais entreprendre une relation avec un subordonné. Je voulais pouvoir évoluer dans ma carrière, j'avais des objectifs très précis, je savais que je voulais entamer le concours pour devenir officier, enfin rien ne devait venir entacher mon futur.
Je me souviens d'une journée où on nettoyait de l'armement et où j'avais pour tâche de vérifier que leurs armes soient bien propres. Et donc lui venait me montrer toutes les petites pièces de la sienne et lorsqu'il a eu terminé, il prenait celle de ses camarades pour venir le plus fréquemment possible me voir. Mais sur le moment, je réalise pas que ça fait 45 fois qu'il fait un aller-retour avec une petite pièce et qu'il cherche à attirer mon attention. Ça, c'est vraiment avec le recul que je me dis mais comment ça n'a pas pu voir ses actions alors que ça se voit comme le nez au milieu de la figure.
Et un jour, j'en ai parlé avec ma colocataire, je lui dis bah il est quand même très insistant celui-ci, elle voyait pas lequel c'était, donc je lui ai montré des photos et là c'est là que ma colocataire elle me dit "Ah, mais il est mignon." Et donc je regarde plus attentivement la photo et je me dis "Oui, c'est vrai." Comme si d'un coup il y avait un éclat de "Oui, en fait, c'est vrai qu'il est mignon, je m'étais jamais dit tiens, il est mignon." Enfin, j'avais jamais regardé en fait. Et donc ma coloc quand elle me fait remarquer qu'il est mignon, à ce moment-là, elle me dit "Bah pourquoi tu n'irais pas tu n'accepterais pas juste d'aller à un petit rendez-vous avec lui mais rien de très fixé, juste pour apprendre à le connaître davantage hors du milieu professionnel." Je me dis "Bon, pourquoi pas." Donc je lui envoie un message en lui disant "Écoute, si tu veux, on pourrait aller faire un festival de lumière. Comme ça, j'apprendrai à te connaître différemment." Et donc, on est allé là-bas et on a bien sympathisé. C'était quelqu'un de très intéressant hors du milieu professionnel. On est allé donc à ce festival des lumières. On est allé boire un verre. On est allé au cinéma. Et on est devenus copains. Mais je me rends compte qu'il est intéressant, qu'il me plaît physiquement, qu'on a énormément de points communs. Et que si je travaillais pas avec lui, évidemment, je pourrais envisager plus. Alors à ce moment-là, au quotidien, ça se passe normalement. On fait comme si de rien n'était. On fait comme si on ne se connaissait, on se côtoyait pas ailleurs qu'au travail. Je suis quand même très exigeante avec lui, même davantage qu'avec les autres. C'est-à-dire que je ne lui laisse rien passer. S'il a sa tenue froissée, s'il arrive avec le moindre retard, je serai intransigeante avec lui, même sur des points où je serai peut-être plus souple avec d'autres. Je le regarde même pas pour éviter qu'il y ait un regard qui transmette quoi que ce soit et que ce soit vu par les autres. Même si on n'est pas encore ensemble, à ce moment-là, je me dis qu'il faut absolument pas que les autres apprennent que je le côtoie. Qu'est-ce qu'on pourrait penser à ce moment-là? De quoi j'aurais l'air? Quelles seraient les conséquences de cette action? Je préfère même pas y penser et pour cela, je préfère éviter tout manquement de rigueur ou toute maladresse au travail. Il joue le jeu lorsque je les rassemble, lorsqu'il y a les ordres. Il respecte, il approuve tout ce que je lui ordonne. On n'a aucun problème au travail. Il continue de me vouvoyer. Tout se passe normalement à ce moment-là. Et les soirs, par SMS, on se raconte nos journées, même si on s'est vu, mais d'un angle différent. On discute de longues heures par message. Après, le soir, il est vrai que je suis plus le sergent, mais vraiment madame. Mais j'ai conscience du fait que je commence à être très éprise de lui et je vois de toute façon depuis le début qu'il l'est de moi. Ça bascule, donc lors du rendez-vous suivant, on discute et puis on finit par s'embrasser. Et là, c'est super, c'est un moment magique et je me dis c'est trop important pour que tu laisses passer ça. Je réalise que la seule chose que je peux faire pour pallier à ça, si je veux vraiment vivre cette histoire, c'est de la vivre vraiment dans une confidence extrême, loin de tous les regards et que personne n'apprenne que je suis en couple avec lui. On met en place certaines mesures, du moins on essaie de ne pas venir ensemble, on essaie de ne pas repartir ensemble, on se voit assez loin du régiment, on évite bien sûr de le dire aux autres et on vit notre vie personnelle à fond. Mais c'est vrai qu'il est dans une chambre où ils sont deux à ce moment-là et que la personne qui est avec lui, elle se demande où est-ce qu'il va assez fréquemment. Et donc, il invente à chaque fois une histoire différente pour essayer d'expliquer pourquoi il n'est pas présent. A contrario, pour lui, c'est plus difficile. Il a envie de crier sur tous les toits qu'il est avec moi. Il a envie que ça se sache. Il a envie de pouvoir en parler à ses camarades. Il a envie de pouvoir venir dans le même véhicule que moi et pas que je le dépose trois rues plus loin. Voilà, il a envie de vivre cette relation
au vu de tous, mais il sait que c'est impossible, que je refuse absolument qu'il en parle à quiconque et que je tiens vraiment à ce que ça reste entre nous. Ce secret n'est pas gardé très longtemps, il ne dure que 2 mois, parce que au bout de 2 mois, on est allé courir, pas très loin du régiment, mais quand même un petit peu, et on a croisé une personne qui travaillait avec nous, donc pas d'ambiguïté, hein, on était juste en train de pratiquer une activité sportive, on a fait comme si de rien n'était, on a dit bonjour, etc. Mais dès le lundi, j'ai commencé à avoir des regards autour de moi, de nous, des personnes du même grade qui m'ont posé des questions de ce que j'avais fait ce week-end, jusque-là, c'était pas très interpellant. Puis, plus précisément, t'es pas allé courir, hein, t'étais avec qui pourquoi? Pourtant, il n'a pas de difficulté dans ce domaine-là. Donc, t'étais pas en train de l'entraîner ni pour faire une performance future. Quelle était la raison du fait qu'on vous ait vus tous les deux? Mais même en niant et en expliquant que non, on ne s'était pas vus auparavant, les esprits avaient déjà leur idée en tête et ils n'y ont pas cru du tout, pas une seconde. À ce moment-là, il n'y a qu'une personne qui me confronte, qu'un supérieur. Quand il me reçoit dans son bureau, je suis terrorisée, j'ai pas très envie d'y aller, je sais que ça va être une confrontation assez difficile. Lorsqu'il me dit qu'il est au courant, je nie, puis je finis par avouer. C'est pas une relation d'un soir, c'est vraiment une vraie relation et que j'éprouve de réels sentiments pour lui, mais que je reste neutre au travail, que je saurai faire la différence, que je saurai continuer à mener à bien mes fonctions et mon travail. Et la personne me confronte et me dit que c'est pas normal. Puis enchaîne des mots un peu plus durs. Tu n'as pas honte de toi. Tu vas aller chercher au berceau. Tu prends quelqu'un qui n'est pas de ton grade. Comment tu peux te regarder dans le miroir? Tu vas perdre toute ta crédibilité. C'est dingue d'avoir fait autant d'efforts dans sa carrière pour en arriver là et de tout faire foirer en un claquement de doigts. Il me dit qu'il va en informer d'autres supérieurs, que je serai sanctionnée, qu'on ne me mettra plus sur des missions intéressantes, que je ferai que les missions que personne ne souhaite effectuer et que ma vie va être de plus en plus difficile. Je ne sais pas si je dois le croire ou pas, il me met une forte pression et il me dit « Prends ton téléphone, envoie-lui un message et dis-lui que tu arrêtes tout. » J'en parle avec mon copain ce soir-là et il est très mécontent, très très mécontent et je m'effondre, je fais un malaise en rentrant, je suis vraiment pas bien. Donc je vais aux urgences et le lendemain, il arrive en retard. On le convoque et on lui ordonne de se changer, de mettre une tenue différente des autres, de récupérer une éponge et de frotter le mur pour l'intégralité de la journée. Avec pour motif ce retard, sachant que d'autres personnes étaient en retard ce jour-là et qu'elles n'ont pas eu ce traitement de faveur. Je réalisais que s'il avait été obligé aujourd'hui de subir ça, c'était en partie à cause de moi, que si j'avais vraiment été dans mes principes, jamais cette histoire elle serait née. Je me dis, mais depuis le début, tu savais que ça allait être compliqué et pourtant t'y es allé. Maintenant, si t'as entrepris cette relation, c'est qu'elle a vraiment du sens, sinon tu ne l'aurais pas fait. Et donc, je me dis, je vais tout faire pour la défendre. À partir de là, quelque chose se brise en moi. Je me dis, ça fait des années que tu te donnes au maximum pour ce métier, que c'est même pas un métier, ça devient vraiment ton quotidien, ta vie. Tu ne viens plus fréquemment voir ta famille, tu n'as plus de jours de repos, tu n'as pas eu de Noël depuis des années. Et là, on te remercie en blâmant la personne que tu côtoies, en t'interdisant de vivre le seul moment de bonheur que tu peux avoir. Et là, je me braque, je me ferme et je me dis que non, je suis prête à être punie, je suis prête à être sanctionnée. Tant pis pour mon avenir, mon concours, mon futur. Je vivrai cette relation quoi qu'il en coûte. Après réflexion, je leur ai dit que je le côtoyais plus, que j'avais mis un terme à notre relation. Comme ça, je me suis dit que je serais tranquille. Et donc, je reçois cette fois-ci un appel lors d'un jour de repos où on me demande si je suis en sa compagnie. Donc, je nie, je dis que pas du tout, je suis pas avec lui et que dans tous les cas, ça les regarde pas. Après cet appel, je me suis sentie vraiment épiée et je me suis dit, là, tu n'as plus de vie privée. Et je vois une grande injustice. Je me dis que depuis le début, en fait, on me malmène et qu'à aucun moment, il n'avait le droit de faire ça.
Je me dis que c'est très malsain et que finalement, pourquoi je veux moi aussi monter hiérarchiquement si c'est pour être entourée de personnes dans cet état d'esprit? Est-ce que finalement, ça en vaut la peine? J'en voulais pas vraiment qu'aux personnes qui m'ont fait subir tout ça. J'en voulais même à l'institution de laisser faire ce genre d'action. Puis avec les mois, je voyais que non, j'arrivais pas à passer outre et que c'était injuste et que je voulais pas rester dans le milieu qui m'avait fait vivre cette injustice. Donc au bout de 5-6 mois, je leur ai annoncé que je cessais le concours et que je ne re-signerais pas non plus mon contrat. Donc on s'est installés ensemble l'année dernière. Il m'a même demandé en mariage et je regrette absolument pas d'avoir fait le choix de mon histoire d'amour et non de ma profession. There's a million things I want, but there's one thing that I need. It's to see your face tonight when I'm dreaming. There's a million things I want, but you're the one thing that I need. I gotta see your face tomorrow when I'm waking.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Laura, j'ai 34 ans et je vis à Paris. Et mon conjoint, ça a été une rencontre totalement fortuite au détour d'un bar en soirée. Déjà, il m'a attirée physiquement, pas dans le sens sexuel, hein, mais vraiment, il était attirant. Ah, un homme est là, vraiment un homme pas imposant de carrure ou de stature, mais imposant dans... il prend toute la pièce. Et quand il m'a regardée, ça a été assez troublant et très déstabilisant pour le coup. Mais pas le déstabilisant, je vais me mettre à bégayer. Au contraire, je vais chercher en moi beaucoup plus de courage et être d'aplomb et ne pas avoir peur et ne pas me sentir dépassée. Et on se met à parler. Et on échange le numéro alors que c'était pas du tout prévu. Et donc, on se recontacte pour savoir si l'un et l'autre vont bien. Et finalement, ça s'est vite enflammé, très très vite enflammé, et on s'est vite revus de façon régulière. C'était intense et léger à la fois. Et il a rapidement mis le mot de « nous sommes en couple ». J'étais en reconversion professionnelle. Lui allait fonder son cabinet, puisque lui avait obtenu le barreau 2 ans au préalable. Et du coup, avec plusieurs associés, ils ont monté le cabinet. Lui était l'associé fondateur. Et au moment où les dossiers ont commencé à rentrer un petit peu trop vite, ils ont eu besoin d'une assistante juridique. Et moi, pour ma reconversion, ça rentrait dedans. Donc, je me suis foncée tête baissée pour faire une reconversion. Et quand je suis arrivée au cabinet d'avocat, donc, nous étions en couple, forcément. Les premiers temps, ça a été rigolo, puisqu'il essayait de mettre beaucoup de légèreté sur le fait qu'il engageait sa copine. Il essayait de temporiser avec son principal associé qui, lui, avait des craintes sur, justement, l'ambiance du cabinet, du fait que sa copine travaille pour le cabinet. Lorsque j'arrivais au cabinet, souvent il me faisait une remarque agréable sur ma tenue. À l'époque, je portais des jupes, des collants, des bottes. Je venais de commerce, donc très dans la présentation, très apprêtée finalement. Mais donc du coup, j'avais toujours une remarque très agréable sur « t'es très élégante »,« ah, t'es très jolie ». Et des fois, avec ce fameux regard de « t'es très élégante, mais ça me fâche puisque les autres te voient ». Donc les premières fois, ça me charmait beaucoup. Il y a eu quelques fois où, en effet, j'ai pu faire des efforts de façon volontaire. Donc, j'avais compris que le paraître, il fallait être à son égal. Sauf que le prix de ses costumes était bien plus élevé que le prix de mes tenues, quand même. Et lui était toujours très élégant, toujours en costard, les boutons de manchette. Enfin, vraiment, tout dans le détail, en plus. Donc, on avait ce petit rituel le matin de se faire des compliments. Et après, dans la journée, souvent, lui... puisque j'étais plutôt gênée, moi, de montrer des gestes affectifs devant mes collègues, devant mes supérieurs, devant un autre cabinet juste à côté. Lui, des fois, avait des gestes affectifs. Lorsqu'ils étaient affectifs, il essayait d'être discret. Et sinon, avait des gestes un peu plus osés, du style une main aux fesses, pendant que personne nous regarde. Et il jouait beaucoup sur « Ah, on est dans l'ascenseur, ah bah je vais en profiter pour essayer de te caresser le bas du dos, pour essayer de remonter ta jupe. » Et mais c'était souvent vu. Et je pense que c'était volontaire. Pareil, il venait m'embrasser sur la bouche, mais il le faisait extrêmement bruyamment. Et du coup, tout le monde entendait. Et moi, ça me gênait beaucoup. Souvent, je lui faisais la remarque en plus de « Mais tout le monde entend, tout le monde nous voit. » Et sa réplique était « Mais je suis le fondateur de ce cabinet, donc je fais ce que je veux. » Et tous les associés étaient tout à fait au courant. Donc c'était un peu gênant, parce que je voulais plutôt mettre ça sous silence, et lui n'hésitait pas à le dire. Et n'hésitait pas à le dire, même des fois à des clients ou à des potentiels apporteurs d'affaires. Donc ça me gênait même, parce que je trouvais ça rabaissant. Je me suis posé la question si c'était pas dénigrer le côté intellectuel de ma personne, de je l'embauche puisque elle est en reconversion, pauvre petite, j'ai embauché ma partenaire puisqu'il faut qu'elle se reconvertisse professionnellement. Et donc je suis chez moi, je travaille, et je vois plusieurs mails arriver, surtout d'une femme. Et je comprends pas, puisque c'est pas relié à des affaires, c'est pas relié à des dossiers que je suis censée suivre. Enfin, je me dis, il y a quelque chose qui va pas, et je clique, et là, je lis le mail, et je comprends que non, ça n'est absolument pas un mail professionnel. Et j'ai une sueur froide, vraiment. J'ai un ascenseur émotionnel assez fort de... J'ai l'impression d'avoir violé son intimité, alors que c'est sur la boîte mail sur laquelle je travaille finalement. Donc bon, je suis en train de boucler des dossiers. Je ne suis pas dans ma vie personnelle, et ma vie personnelle vient à mon travail, vient sur cette boîte mail, sur cet écran, et ça me perturbe beaucoup. Donc je tape son adresse mail dans la recherche mail de la boîte mail, et je découvre plein de mails, et je suis abasourdie. Et d'un coup, c'est si j'explose auprès de lui, dans un cadre personnel. Je connais déjà le personnage et je sais que professionnellement, ça ne se passera pas bien. Et je lui en parle et je dis « Ça s'arrête là, c'est fini. C'est terminé. Faut arrêter maintenant. » C'est terrible parce que je savais pas du tout ce qu'il allait venir de moi le lendemain, mais j'ai dormi extrêmement paisiblement. Le lendemain, après cette bonne nuit, j'étais soulagée, mais en même temps stressée. Soulagée de cette relation, elle est finie. Mais stressée de, aïe, je vais au travail. Et comme très rapidement sa réaction a été la fuite et de se déplacer, ça m'a rassurée. Quand il n'était pas là, j'étais vraiment plus à l'aise. Quand je savais qu'il était en déplacement pendant une semaine ou deux, c'était très plaisant parce que je savais que je n'allais pas le voir. Au travail, la relation, elle était particulière. C'était toujours du chaud-froid. C'est-à-dire que lorsqu'il voulait me signifier que la relation pouvait reprendre à n'importe quel moment et puis ce serait merveilleux, lorsqu'il était dans cette phase finalement de reséduction, ça se passait bien. Et lorsqu'il comprenait que malgré tout, non, je ne reviendrai pas, ça le déstabilisait et ça le mettait en colère. Et si j'avais le malheur de venir une journée de nouveau apprêtée comme j'avais pu être au début, de cette entrée au cabinet, j'avais des pics de c'est forcément pour un homme, c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Il me le faisait comprendre et il me faisait comprendre que ça lui plaisait pas. Et c'était à moi de faire, de devoir le canaliser finalement, de devoir faire en sorte qu'on soit dans un lieu de travail et pas un lieu de règlement de compte. La notion de qui doit finalement canaliser le boss. Je m'étais mise d'emblée cette responsabilité de devoir tempérer l'ambiance générale du cabinet par rapport à ses excès d'humeur, positifs ou négatifs, parce que dans les excès d'humeur positifs, c'était « je te mets une main aux fesses devant tout le monde » alors que nous n'étions plus en couple depuis presque un an. Et il y avait les excès d'humeur négatifs qui, là, étaient encore plus violents, puisque les propos étaient violents, parce que cette personne très impressionnante, beaucoup plus grande que moi, enfin... qui n'hésitait pas à pencher la tête et le haut du buste vers moi pour me crier dessus et faire des grands gestes. Enfin, ça, c'était tout à fait horrible. Et dans ces périodes de froid, il n'hésitait pas à rappeler que grâce à lui, j'étais au cabinet. Alors qu'initialement, c'était « j'ai besoin de toi, rejoins le cabinet, tu as les compétences ». Je te rappelle que tu n'es initialement pas assistante juridique, que tu n'as pas fait de droit, que d'autres personnes seraient plus compétentes que toi. Enfin, et ça, ces périodes-là, elles étaient plus compliquées puisque ça me remettait dans l'insécurité de l'emploi. Je me disais, bah, comme c'est le fondateur, il va décider de me licencier et il va justifier ça sur insuffisance professionnelle et ça sera terrible pour moi. Et être en désaccord avec un patron, c'est compliqué et encore plus avec des avocats. Et ce qui était gênant, c'était lui qui essayait de me faire croire qu'il n'avait vraiment personne, qu'il m'attendait que moi. Et lorsqu'il avait des appels personnels, il se mettait à chuchoter, à partir du bureau. Et inversement, lorsque c'était dans des périodes de froid, il répondait et puis il n'hésitait pas à dire de façon plus forte « je t'embrasse fort ». Ça me faisait du mal parce que je trouvais ça violent de faire des piques, je trouvais ça pas mature. Et ça me mettait mal à l'aise parce que je comprenais qu'il voulait montrer à tout le monde « ah, j'ai une autre partenaire qui m'appelle, avec qui ça se passe bien ». J'avais encore des sentiments et je n'étais pas à l'aise dans ce triangle-là. Le Covid a eu le côté, je me rends compte que ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal d'aller au travail un peu stressé, un peu sur ses gardes. Et le fait de, cette fois-ci, il n'est vraiment plus possible d'avoir de contact physique avec cette personne. Une coupure s'est imposée finalement dans cette promiscuité malsaine. Et là, ça a été radical pour moi de, il faut partir, il faut changer de travail.
C'était un reportage de Clément Saccard, réalisé par Anne de Pelchin et mixé par Guillaume Ledu. Merci à Lily, Laura et Aurore. Valentin Rémy, c'est l'attaché de production des Pieds sur Terre, et Nour Mohamedi, notre stagiaire.
Strong as love can.